Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 3 juin, cette question, combien de personnes ont perdu la vie à cause de la panne des numéros d'urgence? Emmanuel Macron prend l'affaire au sérieux.
On est en train de regarder, de faire le bilan. Il y a eu très vite des numéros à 10 chiffres qui ont été mis à disposition. Et on a rebasculé les numéros sur les départements où ça tenait. Donc c'est trop tôt pour faire un bilan, mais évidemment on est très préoccupés.
Un homme de 63 ans serait décédé dans le Morbihan faute d'avoir pu joindre à temps les secours. Deux autres personnes victimes d'AVC à La Réunion. Orange présente ses plus vives excuses, mais l'incident n'est pas tout à fait résolu. Nous essaierons de comprendre comment fonctionne ce système et pourquoi ces numéros n'ont pas un statut particulier. La vaccination ouverte aux adolescents à partir du 15 juin, disait hier Emmanuel Macron. La Haute Autorité de Santé confirme, en commençant par les plus fragiles. Dans RTL Midi aussi, tapis rouge, nous vous dévoilerons la sélection du Festival de Cannes. Et si vous aimez manger bio, on ne va pas vous couper l'appétit, mais vous risquez quand même d'être déçus parce que vous avez dans vos assiettes la météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
C'est toujours orageux.
Et oui, c'est vrai, avec un premier axe entre la façade atlantique et la Normandie cet après-midi, il pourrait y avoir de bons cumuls de pluie localement, avec de la grêle sous un ciel bien chargé. À l'avant, entre les Pyrénées, le centre et les frontières du Nord, un peu moins de nuages, toujours des averses orageuses localisées, un temps plus sec sur l'est du pays avec du soleil. Entre l'Alsace et la Méditerranée, sauf en montagne, on pourrait également avoir une petite averse orageuse. Les températures sont en légère baisse, mais il fait toujours chaud. 29 à Grenoble, 28 à Paris comme à Marseille, 26 à Toulouse et 17 à Brest.
La question du jour sur RTL.fr. Allez-vous faire vacciner vos adolescents? Vous êtes très partagés. Il y a 41% de oui, 31% de non. On attend vos arguments au 32-10, bien sûr. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, et c'est une question qui est passionnante et pas facile à laquelle il faut répondre. Vous pourrez également réagir à la panne chez l'opérateur Orange, qui a donc perturbé les numéros de secours hier. Pour vous, cette année, les vacances, c'est en France. C'est la demande d'Emmanuel Macron. Là aussi, donnez-nous votre avis. Et puis l'équipe de France qui a gagné 3-0 et la première de Benzema. Qu'en avez-vous pensé? À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Orange présente ses plus vives excuses, mais cela va-t-il suffire? Son PDG Stéphane Richard a été convoqué au ministère de l'Intérieur ce matin à propos de la panne qui a donc fortement perturbé les numéros de secours dans toute la France pendant de longues heures hier soir et qui n'est pas encore tout à fait résolue. Même Emmanuel Macron s'inquiète, vous l'avez entendu tout à l'heure. Gérald Darmanin s'est exprimé dans la matinée.
Les services du ministère de l'Intérieur en fin d'après-midi hier ont constaté des dysfonctionnements qui ont touché tout le territoire national, dysfonctionnement que l'on peut qualifier de grave et d'inacceptable. Trois faits ont été relevés par les préfets de la République. Un dans le Morbihan, où une personne serait décédée n'ayant pas pu joindre par sa famille les services de secours à temps et ayant eu une maladie cardiovasculaire. Et deux autres accidents cardiovasculaires à La Réunion. À ma connaissance, effectivement, les deux personnes sont décédées. Il est encore trop tôt pour pouvoir les imputer directement à cette panne, mais c'est les trois événements que je connais.
Voilà le premier bilan dressé ce matin par le ministre de l'Intérieur. Sophie Jousselin, les services d'urgence font peu à peu effectivement le bilan, chacune de leur côté. On en sait un peu plus ce qui est arrivé à cet homme de 63 ans dans le Morbihan.
Oui, le décès a été confirmé par la préfecture et le centre hospitalier de Vannes. Et ce monsieur aurait fait un malaise. Sa famille, ne parvenant pas à joindre les services d'urgence, le 15 et le 112, un de ses proches l'aurait conduit directement à l'hôpital où cette personne est donc morte. Gérald Darmanin, vous l'avez entendu, a également évoqué le cas de deux personnes décédées à La Réunion suite à des AVC. Le ministre de l'Intérieur a cependant précisé qu'il est dans ce cas difficile de savoir si ces décès sont directement liés à la panne du réseau d'Orange et à la difficulté de joindre les services d'urgence.
Et cette panne n'est pas complètement résolue au moment où on se parle. Revenons-en à ce qui s'est passé exactement, Sophie.
Alors, il y a eu un dysfonctionnement vers 17h sur un équipement de l'opérateur lors d'une opération de maintenance, ce qui a provoqué une panne sur le réseau fixe d'Orange, empêchant l'acheminement de nombreux appels, notamment vers les services d'urgence, mais pas uniquement. Des numéros alternatifs à 10 chiffres, fixes ou mobiles, ont dû être mis en place. L'opérateur a annoncé ce matin que le réseau avait été rétabli à minuit, mais la situation reste très fragile, notamment en cas de pic d'appels. Orange parle d'ailleurs dans son dernier communiqué d'un résidu d'instabilité sur les équipements.
Invité d'RTL Midi, Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms, bonjour.
Bonjour.
C'est une panne d'une ampleur inédite. C'était vraiment imprévisible?
Alors, c'est imprévisible dans, je dirais, l'intensité et la zone géographique. C'est-à-dire que les opérateurs ont tous les jours des problèmes de réseau. mais vous vous en rendez pas compte parce que soit ça concerne une zone géographique, soit des types d'appels, etc. Là, aujourd'hui, c'est tous les numéros d'urgence en même temps et au niveau national. Et ça, c'est une première, c'est du jamais vu dans l'histoire.
Et puis, on découvre quand même assez sidéré que les numéros d'urgence sont traités par l'opérateur Orange, au fond, comme n'importe quel autre numéro, alors qu'il y a quand même un appel d'urgence par seconde.
Alors effectivement, ça paraît très difficile à accepter, puisqu'en fait, Orange est quand même un des 10 premiers opérateurs dans le monde. C'est parmi les meilleurs ingénieurs télécoms. Et il est très étonnant que ce réseau n'ait pas été redondé, il n'y ait pas eu des procédures de retour en arrière, qu'on ait mis plus de 3 heures à juste identifier la panne, ce qui est énorme. C'est très étonnant. Donc peut-être on va le savoir suite à l'audit qui va y avoir lieu. Mmh. Parce qu'il ne faut pas non plus jeter des conclusions trop rapides. Je suis très étonné qu'un opérateur de cette envergure fasse ce type d'erreur. Donc j'ai du mal à y croire. Est-ce qu'il y a eu plusieurs causes en même temps, ce qui est le scénario que déteste un opérateur? Là, aujourd'hui, on nous remonte que ça serait des problèmes de maintenance. Mais je veux dire, la maintenance est maîtrisée depuis des décennies. Donc c'est très, très étonnant ce qui vient de se passer.
Mais il est fragile, ce réseau, oui ou non?
Non, le réseau d'Orange, c'est un des meilleurs en France. Il n'est pas fragile spécialement, sauf que là, on se rend compte, et c'est là où moi, je suis très étonné, c'est qu'on a fait des opérations de maintenance en pleine journée, avant un pic d'appel. On fait jamais ça, c'est des erreurs que aucun opérateur ne fait maintenant. Donc je suis assez étonné en fait de la remontée des infos. Donc faut, ça je dis, faut prendre avec prudence. Il est évident que les conséquences sont catastrophiques, à la fois en termes d'image, mais surtout en termes humains, puisque là on commence à faire remonter des choses. On va peut-être aussi découvrir qu'il y a eu des dégâts matériels, peut-être des incendies, parce qu'on n'a pas pu envoyer les pompiers, etc. Donc là, justement, ce qui est étonnant, c'est que sur des numéros aussi sensibles, on n'est pas une infrastructure dédiée, et c'est là où
c'est
effectivement...
C'est ça, voilà, une infrastructure dédiée, ça on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas ça. Mais alors, il y a d'autres questions aussi que soulève la Fédération des sapeurs-pompiers. Ils disent qu'il faudrait évidemment réformer notre système d'alerte avec par exemple une appli d'urgence sur les smartphones.
Alors oui, alors ça existe déjà dans d'autres pays, des systèmes d'urgence applicatifs. Effectivement, aujourd'hui, on a l'impression, vu les remontées qu'on a, que l'organisation, en tout cas, de notre système d'urgence est peut-être un petit peu dépassée. Et il faut peut-être passer sur de nouvelles technologies.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire utiliser un peu plus Internet, pouvoir lancer des alertes sur les réseaux sociaux, envoyer des mails.
Alors oui, alors faut faire attention à ça quand même, parce que faut savoir que déjà sur les numéros d'appel d'urgence, vous avez énormément d'appels inutiles, c'est-à-dire polluants. Des enfants qui font des blagues, etc. etc. Donc en fait, vous gérez un énorme nombre d'appels, mais que quelques-uns sont critiques, et il faut prendre la bonne décision au bon moment. Donc c'est pour ça que si on augmente la capillarité des alertes, vous allez augmenter le volume, mais il faut être capable de traiter, c'est toujours pareil. Et c'est l'homme qui traite, c'est pas la machine. Je veux dire, quand on décide d'envoyer le SAMU pour sauver quelqu'un, c'est un homme qui a décidé. C'est pas, la machine, elle a pas décidé ça.
Alors donc, comment réformer le système, à votre avis? Créer un système à part, ça c'est sûr.
Alors ça c'est sûr, il faut un système dédié, redondé, ultra sécurisé. Parce que je rappelle, pendant les premières minutes, on a cru que c'était une attaque informatique. Parce qu'en ce moment, la France subit de nombreuses attaques. On a vu qu'il y avait des hôpitaux qui étaient paralysés. Donc effectivement, il faut réformer. La technologie, c'est un des leviers, mais c'est pas le seul. La brique sanitaire humaine dans les urgences, elle est essentielle. Donc voilà, je rappelle, aujourd'hui, on est organisé de manière régionale. C'est-à-dire que vous avez un numéro à 2 chiffres, mais vous ne le savez pas, mais en fait, vous êtes routé par celui qui est le plus proche de chez vous.
Oui.
Ça se fait automatiquement. Donc, c'est des organisations régionales, c'est des centres d'appel, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a un incident qui est majeur, parce que là, ça a duré quand même des heures. C'est tous les numéros en même temps. C'est du jamais vu. Et donc effectivement, il y a une vraie réflexion à avoir. Je crois que le ministre Cédric O lance aussi une réflexion autour de ça avec les opérateurs. Je pense qu'il faut les inclure évidemment.
Oui, je pense que la réflexion a dû déjà commencer depuis ce matin en conclave et en cellule de crise du côté du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Stéphane Dubreuil, spécialiste des télécoms. Bonne journée. On fait une pause dans un instant. L'autre sujet du jour, la vaccination des adolescents.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
La vaccination élargie aux adolescents à partir du 15 juin. Emmanuel Macron a tenu à faire cette annonce lui-même. Ça concerne les jeunes de 12 à 18 ans. Et c'est l'objet de notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous faire vacciner vos adolescents? Qu'en dites-vous, Pascal Praud?
C'est une question qui n'est pas facile. Imaginons que j'ai un ado de 13 ans chez moi. A priori, il a très peu de probabilité de développer la maladie. Donc, je vais le faire vacciner contre une maladie qu'il n'attrapera sans doute pas. En même temps, je sais qu'il peut la transmettre. Et le vaccin, c'est peut-être aussi lui faire comprendre qu'il n'est pas seul au monde, qu'il appartient à une collectivité, qu'il a un devoir vis-à-vis des gens qu'il rencontre. Donc, je suis dans cette situation. J'interrogerai sans doute le médecin traitant, je parlerai sans doute avec mon enfant, et je prendrai une décision, mais je ne sais pas laquelle.
Sophie Orange, est-ce que, comme le sous-entend Pascal, vraiment les adolescents ne risquent rien ?
Alors bien sûr, le risque est beaucoup moins important que chez les personnes âgées, mais il existe. Les ados ont été touchés aussi par le Covid. Je vais vous donner quelques chiffres. Depuis le début de l'épidémie, 4000 jeunes ont été hospitalisés, 700 placés en réanimation, soit environ 1% du total. C'est peu, mais ça compte. Mmh. Il faut aussi évoquer les Covid longs chez les ados. C'est exactement comme chez les adultes, avec des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, par exemple, parce qu'ils sont trop fatigué, c'est donc une perte de chance. Autre risque chez l'enfant, des études sont en cours pour évaluer le lien entre le Covid et des myocardites, des maladies du cœur. Également un syndrome inflammatoire rare qui s'est déclenché par exemple chez 500 enfants en France quelques semaines après les premiers symptômes. Le risque d'attraper le Covid n'est donc pas nul. Et puis effectivement, il y a ce fameux bénéfice collectif oui. dont parlait Pascal Praud, c'est-à-dire empêcher le virus de circuler dans la population, éviter une quatrième vague en fait, hein, il faut le dire comme ça. Ça permettra aussi cette vaccination aux collégiens et aux lycéens de ne plus être en demi-jauge à la rentrée, on l'espère, et à terme, pourquoi pas enlever le masque. Et puis la présence des variants change la donne. Il ne faut sans doute pas attendre pour reprendre une vie normale. La couverture vaccinale, dit la HAS, la Haute Autorité de Santé, doit être homogène par tranche d'âge et par territoire, pour pas qu'il y ait de poches, si vous voulez, de poches de circulation de virus ici ou là, ce qui permettrait à l'épidémie de redémarrer.
Merci Sophie, voilà, vous avez les éléments pour en débattre au 32-10, appelez-nous. Quant à la vaccination sur vos lieux de vacances cet été, pour la deuxième dose, au lieu de la faire à 6 semaines pile, il y aura une souplesse entre 5 et 7 semaines. En tout, près de 2 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde. C'est en Israël que la campagne est la plus avancée. Près de 6 personnes sur 10 ont reçu 2 doses, suivies du Canada, du Royaume-Uni, du Chili et des États-Unis. La France est à 40%. Un village médiéval, une halle avec une sublime charpente en châtaignier. C'est la carte postale du jour, signée Emmanuel Macron, toujours dans le Lot. Après Saint-Cyr-la-Popie, Martel, deuxième étape de son Tour de France. Côté contact, William Galibert, il échange en ce moment avec une trentaine de retraités.
Oui, mais les journalistes n'y sont pas forcément les bienvenus. Ni une ni deux, Christelle. J'ai baladé le micro RTL et trouvé Jacques et Gérard, deux retraités qui sont en ce moment face au président. Ce sont eux qui vont vous donner une idée des thèmes qui sont abordés face à Emmanuel Macron.
Nous sommes ici, la France profonde et rurale. On est quelquefois un peu oublié. Bon, sur certaines choses, sur certains services notamment. Quoi ? Le réseau ferré.
Par exemple, au niveau de la culture, où on a l'impression que tout se passe à Paris et que jamais il ne se passe rien dans les provinces. Un de vos collègues sur une autre radio ce matin, j'entendais, avait titré le roi chez les ploucs. Voilà, bon, ça résume tout. Hein.
J'ai deux hommes heureux face à moi quand même.
Là. Ah oui.
Ah ben nous, oui. Oui, ah ben, on est heureux. Oui.
Il y a une formule dans le Midi qui dit à qui sient bien. Ici, on se sent bien. Eh ben, c'est d'actualité. Hein.
On se sent bien ici. On pose toutes les questions. Serez-vous candidat en 2022? Trop tôt pour le dire, à balayer Emmanuel Macron. Mais la discussion va se poursuivre tout à l'heure et se terminer par quelques tranches de magret farci au foie gras et quelques verres de rosé. Ça poussera peut-être davantage à la confidence.
Oui, je vous vois venir. Merci William, en direct de Martel dans le Lot. La vérité sur le bio. 60 millions de consommateurs épinglent ce marché florissant en nous montrant les bienfaits du bio, mais aussi les déceptions. Et pour commencer, une claque à une idée reçue à Gatlandais. Rien ne prouve que le bio est bon pour la santé.
Et non, car les études qui l'affirment sont en fait très contestées. Pourtant, elles sont nombreuses à vanter les bienfaits du bio, notamment quand on regarde du côté des pesticides. 14% des produits bio en contiennent, contre 47% pour les produits non bio. D'autres études ont montré que les consommateurs de bio ont un risque d'obésité diminué de 31%, un risque de diabète diminué de 35%, et pour les femmes, elles auraient 33% de risque en moins de développer un cancer du sein. Mais donc, toutes ces études sont contestées. Le problème, en fait, c'est le choix du panel. Les mangeurs de bio sont un profil très particulier. Mmh. D'abord, ils font plus de sport, ils ont un niveau de vie plus élevé, ils fument moins et ils mangent plus sainement en général que les consommateurs de produits non bio. Ils ne sont donc pas vraiment représentatifs de la population générale et plusieurs scientifiques disent que ça fausse toutes les études.
Bon, et puis l'association de consommateurs a aussi comparé des produits similaires, bio et non bio, et il y a quelques mauvaises surprises.
Oui, notamment du côté de la crèmerie et des œufs. Il s'avère en fait que certains produits bio contiennent des perturbateurs endocriniens, contrairement aux produits non bio. C'est le cas par exemple pour le lait, pour le beurre ou encore pour les œufs. Les taux sont très très en dessous des seuils d'alerte, hein, mais c'est vrai que ça interpelle. La raison est facile à comprendre. Les vaches élevées dans les champs et les poules en plein air peuvent entrer en contact avec des produits chimiques, des substances accumulées dans nos sols, et évidemment les poulets non bio élevés en batterie ou les vaches qui sortent moins de leur hangar ont-elles bien moins de risques d'en être infectées.
C'est quand même assez fou. Et il faut aussi bien lire les étiquettes.
Oui, notamment du côté de certains poissons comme les saumons ou les truites fumées bio qui contiennent parfois beaucoup, beaucoup trop de sel, tout comme les sauces tomates, les céréales ou les pains. Eux aussi sont bien trop salés, tout autant d'ailleurs que les produits non bio.
Merci, j'espère qu'on ne vous a pas coupé l'appétit. Dans un instant, on part au Festival de Cannes.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est le retour du tapis rouge et du Festival de Cannes. Après une année sans, l'an dernier, les stars seront sur la croisette du 6 au 17 juillet et la sélection vient tout juste d'être dévoilée, Stéphane Boutsock. Alors,
24 films annoncés en compétition avec une forte présence française, 7 films tricolores, dont ceux de Jacques Audiard, François Ozon, également Catherine Corsini ou Bruno Dumont. Pour le reste, on va retrouver sur la croisette des habitués de Cannes comme Sean Penn, Nanni Moretti, Paul Verhoeven, qui battra Pavillon français, ou encore l'Iranien Faraday. Côté star, vous en parliez, cette 74e édition s'annonce faste. Marion Cotillard, Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Oliver Stone, Matt Damon, Vincent Lindon, Virginie Fira ou Jodie Foster, qui oui. recevra une palme d'or d'honneur à l'ouverture, sont annoncés. Notez que plusieurs événements auront lieu hors compétition. Par exemple, la présentation du film Aline, de et avec Valérie Lemercier, ou encore Bac Nord, avec Gilles Lelouch. Enfin, évidemment, un mot des règles sanitaires. Le 6 juillet, il n'y aura plus de couvre-feu ou de jauge dans les salles, mais les gestes barrières et donc les masques seront exigés en projection ou dans les lieux publics. Un passeport sanitaire sera demandé. Vous avez 2 injections de vaccins, aucun souci pour accéder. Sinon, des tests salivaires PCR seront obligatoires toutes les 48 heures.
Et je note donc, Stéphane, la première réapparition de Catherine Deneuve.
Absolument, dans le film d'Emmanuel Berco qui sera présenté hors compétition. Le film s'appelle, et le titre prend toute sa saveur et sa valeur, de son vivant. Et ça sera en effet la première apparition de Catherine Deneuve depuis son AVC il y a maintenant un an et demi.
C'est très prometteur tout ça. Merci Stéphane.
Absolument.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Le retour à la vie normale, c'est aussi celui des écrivains qui retrouvent les séances de dédicaces dans les librairies. Vous avez rencontré à Tours, Christian Panvert, le prix Goncourt de cette année, Hervé Le Tellier. Il a vendu plus de 800 000 exemplaires de l'Anomalie et il a enfin retrouvé ses lecteurs.
Oui, Hervé Le Tellier est très heureux de ses retrouvailles. Il se déplace pour soutenir les librairies indépendantes.
On a en France un des réseaux de libraires les plus puissants du monde. C'est très rare de trouver des pays équivalents dans lesquels, dans un quartier, on trouve forcément une librairie. C'est formidable maintenant qu'on se soit considéré comme un commerce essentiel.
Malgré l'horaire avancé, 18h45, les lecteurs étaient là, masque sur le visage, livre à la main comme Patrice.
C'est aussi important pour nous lecteurs que la réouverture des terrasses par exemple, ou bientôt des restaurants, parce que ça fait partie de la vie de la cité.
La rencontre va durer 3 quarts d'heure.
Joël F. King, directeur de la boîte à livres.
Pas plus, parce qu'il n'y a pas de trains qui ont été remis après 20h19.
Hervé Le Tellier répond aux questions de ses lecteurs, dont une sur le choix du titre.
Le titre L'Anomalie, d'ailleurs, aurait été, avec le recul, un mauvais titre s'il avait mal marché. Mais comme il a bien marché, c'est devenu un très bon titre.
Il évoque avec humour tous ses personnages, à l'instar du tueur à gages qui finit par se tuer.
Et lorsqu'il se confronte à lui-même, il règle la situation de manière extrêmement radicale. Il y a un petit moment que j'aime bien, c'est quand il se découpe en morceaux et qu'il dit que, ah, là, il a peut-être un grain de beauté à surveiller.
Hervé Le Tellier a déjà pris date, il reviendra pour la sortie de son prochain livre.
Et l'anomalie sera certainement un des succès de cet été. À lire absolument sur la plage ou ailleurs. À l'étranger, Israël est peut-être en train de tourner la page Netanyahou. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a arraché in extremis un accord pour un gouvernement de coalition avec pour la première fois un parti arabe. Il lui faut maintenant obtenir la confiance de la Knesset, le Parlement israélien. Près de 7 millions de téléspectateurs pour un match amical des Bleus, c'est quand même rare. L'attente n'a pas été déçue. Ils ont joué ensemble, nos Bleus, en attaque autour de Karim Benzema pour une victoire 3-0 face au Pays de Galles. Prochain match de préparation le 8 juin face à la Bulgarie. Et il ne faut pas s'emballer trop vite quand même, Nicolas Georgerot.
Oui, inévitablement, c'est un paramètre qui va compter. L'encadrement des Bleus va devoir combattre un optimisme excessif. Le large score est à mettre en relief hier soir avec des Gallois obligés de jouer à 10 durant une heure. Un parcours dénué d'embûches, une route sans encombre, c'est plutôt l'exception que l'ordinaire, rappelle Didier Deschamps.
Les matchs de préparation, c'est pour avoir des difficultés aussi. Si on n'en a pas, ça veut dire qu'on aura bien fait, mais ça ne va pas nous donner de garantie. Je ne vais pas me battre contre ça, mais avec mon staff, on est en alerte et jusqu'à maintenant, les joueurs en ont bien conscience aussi.
Les Bleus rentrent à Clairefontaine en début d'après-midi. Lucas Hernandez a ressenti une petite alerte musculaire hier soir. Pas de gravité à ce stade. Le latéral gauche passera des examens aujourd'hui.
Nicolas Georgerot, ils vous ont séduit ces Bleus hier soir, Pascal?
C'est difficile de dire le contraire.
C'est vrai, c'était super beau ce qu'il y a.
Un sentiment que tout va bien, qu'aucun nuage ne plane sur cette équipe de France.
C'était un peu l'extase. Ouais.
Elle a les meilleurs joueurs possibles, le plus grand
entraîneur. Ils jouent bien ensemble.
Exactement, donc tout va très bien maintenant. Il faut attendre, ça va être France-Allemagne le premier match. Mmh. On pourra parler donc de cette question à laquelle je n'ai pas de réponse. Allez-vous faire vacciner vos adolescents? Ce que j'écoutais tout à l'heure, Sophie Orange. C'est vrai que ce n'est pas la même chose d'avoir un enfant de 12 ans que 16 ou 17 ans. C'est pour ça que je dis le médecin traitant, tu as envie aussi de l'écouter. Puis après les enfants, la question va se poser pour les enfants. Nous sommes d'accord. Est-ce que tous les enfants doivent être vaccinés? Puisque c'est pareil, une fois qu'on aura fait les ados.
C'est l'étape d'après, oui.
C'est l'étape d'après. On est d'accord. Donc au fond, c'est la même question. Vous pourrez réagir évidemment à la panne chez l'opérateur Orange. Ça, c'est intéressant. Les vacances, c'est en France. Je ne sais pas où vous allez cette année, ou si vous partirez à l'étranger ou pas. Les vacances, c'est en France. C'est la demande d'Emmanuel Macron. Et puis, donc, le retour de Karim Benzema et des Bleus hier soir.
Je vais m'évader, je crois, cette année.
Les vacances, c'est RTL.
Voilà, mais oui, bien sûr.
C'est à Neuilly.
La météo, Peggy Broche. Toujours cette chaleur orageuse.
Et oui, 29 degrés, Christelle, attendu cet après-midi à Lyon. 28 à Paris, Bourges, Montélimar, Strasbourg, 26 à Bordeaux et Auch, 23 à Nice, comme à Abbeville, 19 à Rennes et 17 à Cherbourg. Bon, vous l'avez dit, des orages encore cet après-midi. Alors, ça va se développer d'abord entre la façade Aquitaine et la Normandie, sous un ciel bien chargé avec de la grêle localement. À l'avant, entre les Pyrénées et le centre, l'Île-de-France jusqu'aux frontières du Nord, là, les nuages sont moins nombreux, mais les averses orageuses seront généralisées sur cette zone, même si on rappelle que c'est un phénomène ponctuel et localisé. Et un temps plus sec à l'est, entre l'Alsace et la région méditerranéenne. Il pourrait juste y avoir une petite averse orageuse en montagne.
Et demain, alors là, un bon arrosage.
Un bon arrosage, surtout sur les régions entre le sud-ouest et le nord, jusqu'au nord-est demain après-midi. De part et d'autre, un temps beaucoup plus clément. Quelques averses orageuses uniquement en montagne sur la façade est et du soleil sur la région PACA. Tout ça sous des températures qui seront en légère baisse, mais encore très agréables et voire chaudes à l'est pour la saison.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres et ce sera à vous. Vous pourrez dialoguer avec Pascal Praud au 3210.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et vous le savez, une panne d'un équipement chargé d'acheminer les appels a entravé massivement l'accès au numéro d'urgence 15, 17, 18 et 112. Bonjour Latifa.
Bonjour.
Vous avez peur peut-être de cela?
Oh ben, plus que peur. Je suis extrêmement choquée par ce qui s'est passé hier.
Et nous allons pouvoir ensemble en parler jusqu'à au moins 14h. Le rappel des titres avec Christelle.
Oui, bien justement, cette gigantesque panne des numéros d'urgence, il est trop tôt pour faire un bilan, dit Emmanuel Macron, mais on est très préoccupé. Cette panne a sans doute coûté la vie à 3 personnes victimes d'un AVC, 2 à l'île de la Réunion, 1 à Vannes. Un homme de 63 ans, Nicolas Bobby.
Effectivement, il était impossible de joindre les secours. L'épouse de cet homme, qui habite dans la région de la ville d'Auray, a pris sa voiture direction les urgences de l'hôpital de Vannes, où il est arrivé en arrêt cardiaque. Philippe Couturier, directeur du CHU.
Tout a été fait dès l'arrivée du patient aux urgences pour tenter de réanimer le patient. Cette tentative de réanimation a été vaine. Mais...
Une enquête va être diligentée par le parquet de Vannes. Il est beaucoup trop tôt pour affirmer avec certitude que le décès est lié à cette panne technique, le docteur Xavier Barège du SAMU 56.
On ne va pas parler de raté, encore une fois, il y a une enquête qui est en cours. On sait que dans les problématiques cardiovasculaires, effectivement, chaque minute peut compter.
Reportage Nicolas Bobby, le PDG d'Orange Stéphane Richard adresse ses plus vives excuses. Olivier Véran, le ministre de la Santé, affirme à l'instant que des problèmes subsistent dans 11 régions. 13 personnes jugées pour cyberharcèlement et menaces de mort contre Mila, cette adolescente qui avait publié une vidéo polémique sur l'islam. Ils ont entre 18 et 30 ans. Le procès s'ouvre à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès est celui de la terreur numérique, affirme Maître Malka, l'avocat de l'adolescente. Nous partons à Roland-Garros retrouver Gauthier de Lombugard et ce qui reste de Français, deux hommes, deux femmes pour sauver l'honneur, en sachant qu'il y a du lourd aujourd'hui face à eux. Et Gaël, mon fils, Gauthier est déjà sur le court.
Oui, avec un début de match compliqué pour le numéro 1 français qui est breaké d'entrée et qui perd pour le moment 3-0 dans ce premier set. Ça ressemble un petit peu au début de match du tour précédent, mais le français avait fini par s'imposer et on espère le voir se qualifier, car au milieu de ce marasme tricolore, mon fils nous redonne le sourire, nous procure des émotions. C'était le cas lors de son premier match avec ses cris de délivrance sur chaque coup, ses partages avec un public de feu, et c'est aussi l'émotion du camp, mon fils, on en avait parlé, cette famille si soudés, ses parents sont venus des Antilles. Imaginez, cela faisait plus de 2 ans que le champion français n'avait pas vu sa maman. Voilà, on espère que tout cela va mener mon fils au tour suivant. En revanche, ça sera beaucoup plus compliqué pour Richard Gasquet. Mission quasi impossible face au grandissime favori Rafael Nadal. C'est simple, le Biterrois n'a jamais battu l'Espagnol. Enfin si, il l'avait battu à l'âge de 13 ans lors du tournoi des Petits As. On me le ressort à chaque fois, s'est amusé Gasquet en conférence de presse, qui a fait part de sa joie de s'opposer à la légende Nadal. Et puis chez les filles, Fiona Ferro, la numéro 1 française, tentera de se défaire de l'américaine Brady. Kristina Mladenovic sera elle opposée à l'estonienne Anna Kontaveit.
Et prochain point, 13h30, à tout à l'heure. Les...